D'emblée, j'aimerais dire que les références anglaises ne vont pas être dominantes dans ma contribution aujourd'hui, mais qu'en fin de compte, j'ai pu voir avec la contribution qu'on a eue tout à l'heure qu'il y avait énormément de parallèles entre la scène contemporaine anglaise et la scène contemporaine allemande et autrichienne. Et qu'en fin de compte, l'esthétique dont on vient de nous parler est l'esthétique qu'on peut retrouver dans les deux pièces que j'ai choisies aujourd'hui. Alors, comme vous pouvez le voir, alors je ne sais pas, peut-être que vous connaissez l'un des deux auteurs, puisque Roland Schimmelpfennig commence à être connu, ou en tout cas, il est très connu en Allemagne, et il est joué aussi en France et au Canada. Et en Angleterre. Et Ewald Palmezhofer est moins connu, et c'est pour ça que j'aimerais commencer maintenant. Donc le théâtre contemporain germanophone, extrêmement riche, peut-être un peu moins connu ici, mais très riche et controversé, ne peut être résumé à ces deux personnalités. Mais les deux auteurs dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui, donc Schimmelpfennig et Palmezhofer, semblent incarner une tendance importante de l'écriture contemporaine allemande, de langue germanophone, on va dire, et illustrer par leur parcours les spécificités de la création dans les pays de langue allemande. Tout d'abord, ils appartiennent tous les deux à la garde montante du théâtre d'avant-garde germanophone. Schimmelpfennig est né en 1967 à Göttingen. Il a écrit 27 pièces ces 15 dernières années, c'est pour vous dire qu'il est extrêmement prolifique. Ses pièces sont montées en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en France, aux États-Unis, au Canada. Il est aussi traducteur, il a été journaliste, il a été metteur en scène. La simplicité apparente de son écriture, la poésie de son écriture, tranche avec les dispositifs dramatiques, complexes qu'il impose aux comédiens et aux metteurs en scène. De ses nombreuses pièces, j'aimerais me concentrer sur sa création pour l'Académie Theater. C'est l'une des scènes, c'est la scène d'avant-garde en fait du Burgtheater de Vienne en 2009, pardon, Le Dragon d'Or. Alors ça pourrait présenter un pont aussi assez en rapport avec l'intitulé du colloque. Une pièce qui traite de façon onirique de l'exploitation des immigrés clandestins. D'une part, parce que la pièce, récompensée par des prix prestigieux et saluée par la critique et le public, me semble pousser plus loin encore la réflexion de l'auteur sur les limites du théâtre, et d'autre part, parce qu'il a lui-même mis en scène la pièce à Vienne. Donc en fait, on a les deux versants qui sont reliés ici, l'écriture et la mise en scène. On va dire qu'il contrôle son œuvre jusqu'au bout. Ewald Palmezhofer, né en 1978, appartient à la même, enfin plus ou moins à la même génération. Son chemin vers le théâtre a été plus long. Originaire d'un village de Haute-Autriche, le déterminisme social et culturel entre pour une large part dans la caractérisation de ses personnages. On peut voir une sorte de résurgence naturaliste dans son écriture, mais seulement dans la thématique. Tout aussi prolifique que son collègue allemand, ces deux, trois dernières années, 10 de ses pièces ont été montées en Allemagne et en Autriche, et ce, depuis le succès de la pièce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire Hamlet est mort, gravité zéro. Le titre vous indique déjà que, on va dire, les lectures des drames de Palmezhofer ne sont pas forcément complètement transparentes. La pièce a été montée fin 2007. Fin 2007, dans une mise en scène de Felicitas Broca au Schauspielhaus de Vienne. Le Schauspielhaus est une des scènes d'avant-garde aussi de Vienne. S'il ne met pas lui-même en scène ses pièces, ici, cette pièce a été écrite pour la troupe du théâtre du Schauspielhaus de Vienne. C'est-à-dire qu'il a mis le texte à l'épreuve du corps et des voix des comédiens. Les sujets qu'il a choisis se placent d'emblée dans une tradition classique. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler de Hamlet, mais il a écrit dans la foulée une autre pièce qui s'appelle Faust a faim. Alors la suite a été traduite par Marguerite immangeable. Mais en fait, si on veut vraiment traduire le sens de son titre, le titre signifie Faust a faim, mais il va s'étouffer sur une marguerite, sur Marguerite, en fait, la marguerite de Faust. Donc, Hamlet et Faust servent, dans la lecture fragmentée que propose l'auteur, de révélateurs des failles de notre société en perdition, de notre société de consommation ou surconsommation. Le rapport au classique est politique et sert, tout comme la fable de la cigale et la fourmi dans la pièce de Schimmelpfennig, parce que c'est l'un des pivots du Dragon d'Or, à mettre en évidence et à déconstruire les rapports de force entre les individus, et on pourrait même dire à l'intérieur des individus mêmes. Et c'est pour ça que j'aimerais revenir à une problématique qui associe justement la question de l'identité et peut-être aussi de la nationalité, puisque je parle aujourd'hui de l'Allemagne et de l'Autriche, et on pourrait se poser la question du rapport entre ces deux pays, où est-ce qu'il y a vraiment une différence. Donc quant à la recherche de marquages nationaux autrichiens, allemands, ils n'ont pour les deux pièces que j'ai choisies aujourd'hui peu de sens. Alors j'aimerais vous expliquer pourquoi. La première raison est historique et structurelle. Les programmations des théâtres en Allemagne, en Autriche ou en Suisse montrent la perméabilité entre les pays. Metteurs en scène, acteurs et auteurs voyagent d'un pays à l'autre. Ils travaillent en s'attachant temporairement à l'un ou l'autre théâtre. Et ce, traditionnellement, depuis la fin de siècle, du 19e, où la scène et l'avant-garde autrichienne se trouvaient à Berlin, avec le Deutsches Theater de Otto Brahm et Max Reinhardt, et le lieu du naturalisme berlinois avait trouvé refuge, après ses heures de gloire, au Burgtheater, sous la direction de Paul Schlenter. Donc on avait une sorte d'opposition, un naturalisme berlinois qui se retrouvait à Vienne, et un symbolisme, impressionnisme viennois qui se retrouvait sur les scènes berlinoises. Cette opposition d'école est dorénavant obsolète, au temps de l'éclectisme, où l'avant-garde peut être jouée à Hambourg, Dresde, Berlin, Zurich, Vienne, Bâle, et où les rencontres théâtrales de Berlin, de Mülheim, on peut même penser à Salzbourg, rassemblent le meilleur de la mise en scène germanophone sans distinction nationale. Les systèmes de commandes et de subventions dont Schimmelpfennig et Palmetshofer ont largement bénéficié, ils ont été attachés à des théâtres, ils ont écrit des pièces sur commande, ils ont reçu des prix, ils ont été subventionnés par l'économie allemande, ce qui est assez intéressant quand on voit la teneur de leurs pièces, qui sont des pièces anticapitalistes. Mais en tout cas, ce système de commandes et de subventions, ce mécénat, a contribué à la grande vivacité de la nouvelle scène allemande. Une vivacité qu'on remarque surtout depuis les années 2000. La seconde raison à ce démarquage national tient au choix même des auteurs qui, plutôt que de se confronter à un théâtre historique, qui existent encore aujourd'hui, comme le font de nombreux auteurs et metteurs en scène aujourd'hui dans le monde germanophone. Alors on a des pièces sur Goebbels, on a des pièces sur la chute du mur, on a des pièces sur la Stasi, etc., qui existent et qui sont des pièces, on va dire, historiques, ou qui choisissent de se placer dans cette optique-là et dans une optique nationale ou de réflexion sur la nationalité. Ici, les auteurs ont choisi de revisiter le drame social, ancré dans l'histoire théâtrale allemande par le naturalisme de Gerhard Hauptmann et de Arno Holz à la fin du XIXe siècle, mais aussi dans l'histoire de la nouvelle objectivité du théâtre qu'on pourrait associer à Piscator, qui a été nommé tout à l'heure, à Brecht évidemment, et aussi à Marie-Louise Fleischer. Donc un héritage qui est un héritage, on va dire, du théâtre social. Ce qui ne signifie pas qu'il s'agisse d'une esthétique qui rejoigne exactement cette esthétique-là. La dernière raison est plus complexe et semble poser les marqueurs nationaux d'emblée comme des constructions, des mythes, des mythologies, comme on a pu l'entendre tout à l'heure dans la lignée de Barthes. En ce sens, les deux auteurs s'insèrent dans une rupture que l'on a pu déjà sentir dans la génération des grands metteurs en scène, donc ce qu'on appelle le Regietheater en Allemagne. C'est ce théâtre des années post-68 qui existe encore aujourd'hui. Ainsi, chez Castorf, plusieurs langues et nationalités se retrouvent simultanément sur scène. Vous le connaissez certainement, vous l'avez vu à Chaillot, vous l'avez vu à La Colline. Le marquage national existe encore, mais il s'agit pour lui de faire ressortir sa construction, son ridicule, par la confrontation avec d'autres expressions nationales ou nationalistes. On peut penser à sa mise en scène de Massemensch, par exemple. En regard de Castorf, Schimmelpfennig et Palmetshofer vont peut-être encore plus loin, ou en tout cas c'est ma thèse. Le rapport à l'identité nationale, qu'elle soit allemande ou autrichienne, si elle existe, se double d'une réflexion plus large, européenne, globalisée, mondialisée. Alors que dans la génération précédente, celle de ce qu'on appelle les Nestbeschmutzer, donc je ne sais pas comment on traduit ça, ceux qui crachent sur leur propre nation, en Autriche ou en Allemagne, l'écriture a été pour une large part commandée par le besoin de déconstruire un passé évident qui est le passé nazi ou, on va dire, austro-fasciste ou nazi en Autriche. Ce sont les pièces de Jelinek, que vous connaissez peut-être, ou en tout cas vous en avez entendu parler, ou évidemment les pièces de Thomas Bernhardt, qui, eux, sont jouées régulièrement en France. Ce sont aussi les pièces de Heiner Müller, qui a aussi été cité auparavant, ou les mises en scène de Heinrich Schlieff, les mises en scène de Faust, par exemple, où il revient sur, on va dire, l'instrumentalisation national-socialiste de Faust. Dans la génération post-68, la question identitaire, le marquage national, est alors inséparable du passé nazi. Tous les autres marqueurs nationaux, culturels, alors les grands classiques, philosophiques, Hegel, Heidegger, Fichte, économiques, l'impérialisme, le colonialisme, l'industrialisation, le capitalisme, et historiques, la guerre, les deux Allemagnes, la chute du mur, etc., tout en découlait ou y menait. Le renvoi obligé au nazisme et aux conséquences du passé refoulé sur la déconstruction et le pourrissement de la société présente, ce qui représente en somme le fil rouge de l'écriture et de la mise en scène depuis les années 60, tant à l'Est qu'à l'Ouest, ressurgit bien dans les œuvres en présence, mais de façon plus abstraite. Et en fait, cette abstraction est l'une des caractéristiques des deux pièces dont j'aimerais parler aujourd'hui. Le poids du passé et le pourrissement de la jeune génération par l'ancienne, et là ça rejoint tout à fait la citation qu'on a pu voir tout à l'heure, le poids, on va dire, ou la force infanticide de l'ancienne génération. Donc ce poids du passé remplace la mise en accusation ciblée telle qu'on pouvait la rencontrer dans Avant la retraite ou Heldenplatz chez Bernhardt. Le questionnement central chez les deux auteurs aujourd'hui touche à l'identité, à sa perméabilité, à sa transparence, à son artifice et à sa manipulation. Le faible marquage national de ces pièces explique certainement aussi leur succès à l'étranger. Alors bon, pour Palmetsova, c'est un peu prématuré, mais pour Schemmelpfennig, je pense qu'on peut déjà dire que c'est le cas. Les références sont perceptibles de tous, ce qui ne peut être le cas chez Jelinek, ou en tout cas dans une grande partie des pièces de Jelinek, qui sont justement des pièces verbatim, comme on a pu en entendre parler tout à l'heure. Et le public envisagé est ainsi plus large que le public des pièces actionnistes de l'avant-garde des années 60. C'est la question du public qui se pose, c'est-à-dire à qui s'adressent ces pièces. Et quand on déconstruit la nation autrichienne et qu'on la joue devant un spectateur français, la valeur du spectacle n'a pas la même que quand on la joue devant un grand bourgeois qui a pris son abonnement au Burgtheater. Cette dénationalisation, apparente n'est cependant pas un désengagement politique. Au lieu de placer le regard sur l'exploitation monstrueuse du passé, les auteurs recherchent ici les traces de l'exploitation invisible au quotidien. Donc on pourrait dire que le fil directeur est qu'ils essayent de rendre visible ce qu'on ne voit pas. Ce sont des pièces de la transparence totale. Les deux pièces des auteurs sont ancrées dans le quotidien, dans la banalité, même si Hamlet est mort, on va dire qu'il est bien mort, dans la banalité, dans la trivialité, et font le pari de faire remonter le refoulé et le non-dit à la surface, de lancer à la face du spectateur, c'est vraiment le « in the face » qu'on a eu tout à l'heure, des fragments de vie, et même des fragments de corps. Ces vies sont ancrées dans une réalité socio-économique plus que dans une réalité nationale. En ce sens, elles appartiennent pleinement à une esthétique qui pose la globalisation, enfin la mondialisation, et ses conséquences économiques et anthropologiques au centre de son écriture. La mondialisation des modes de vie, la réification économique des rapports humains, dicte le mode d'écriture des pièces qui tente de représenter l'irreprésentable, l'infiniment grand, c'est-à-dire le monde et ses rapports de force, par l'infiniment petit, la cellule familiale et même le couple, qui est l'unité de mesure de ces deux pièces. Cette écriture est d'ailleurs représentative d'un courant dominant devenu presque canonique depuis les années 2000. Alors le mot n'a pas été prononcé aujourd'hui, je ne l'ai pas entendu, mais en fin de compte, ce qui a été décrit en ressort. Il s'agit du théâtre post-dramatique, analysé en 1999 par le germaniste Hans Thies Lehmann, dont le maître mot est l'affranchissement du théâtre ou de l'écrit, de la fable dramatique, mais aussi du personnage, de la linéarité temporelle ou de la concrétude spatiale. Non seulement on rompt avec l'unité que vous connaissez, mais on rompt aussi, on va dire, avec ce qui représentait le drame même, l'aspect dramatique, le conflit, pour le recouvrir par autre chose. Donc l'unité de temps, de lieu et de l'action des classiques est remplacée par une déconstruction systématique de ces éléments constitutifs pour donner lieu à une écriture réflexive, ancrée dans la lecture de Barthes. Le théâtre post-dramatique pose dans le sillage de la postmodernité le monde comme discours, comme langage, et s'attaque à lui en mettant à nu les constructions langagières qui le sous-tendent. Alors on a par exemple les textes qui sont des collages, ceux dont on a entendu parler tout à l'heure. On a des voix désincarnées, c'est un autre mode dont on a entendu parler et qui revient extrêmement souvent dans les écritures contemporaines. Du texte, pourrait-on dire, naît le monde, l'acte créateur fictif et le miroir des rapports de force réels. Mais à ce texte, et c'est l'ambivalence qu'on a eue entre absence et présence, écrit pour et surtout contre le théâtre, viendra répondre son incarnation par des acteurs. Et c'est dans cette opposition entre langage et geste, entre corps et abstraction, entre intériorité et extériorité, que s'accomplit le système post-dramatique, et notamment le système de ces deux auteurs dont je veux parler aujourd'hui. Et là, je saute un gros morceau de ma contribution, parce que je sens que le temps presse. J'en arrive donc... Pardon, je suis désolée, je ne sais pas comment faire avancer mon PowerPoint. C'est là.
La barre d'espace au-dessus.
Là-bas. Ah d'accord, pardon. Donc là, vous avez les indications sur le succès de la pièce Le Dragon d'Or, jouée en 2009 à l'Académie Théâtre dans la mise en scène de l'auteur, qui a reçu le prestigieux prix de la meilleure pièce aux Journées théâtrales de Mülheim en 2009 et qui a été jouée, pour la petite histoire, au Théâtre des Célestins en traduction en 2011, qui est peut-être jouée encore maintenant. Hamlet est mort, Gravité zéro, mise en scène de Felicitas Broca et nommé meilleur jeune auteur pour cette mise en scène par la revue Theaterreut, qui est l'une des revues phares du théâtre contemporain en Allemagne. Voilà. Donc j'en arrive au Dragon d'Or. Là, vous avez l'une des scènes centrales du Dragon d'Or. Dans le Dragon d'Or, Roland Schimmelpfennig raconte la vie d'un petit immeuble dans une ville qu'on peut supposer allemande, mais en fin de compte, ça n'a que peu d'importance. C'est l'immeuble qui est important parce qu'en fait, l'immeuble, c'est quoi ? C'est le microcosme, c'est le miroir du monde. Au rez-de-chaussée, alors le monde avec ses étages, ses hiérarchies, ses strates et ses coulisses. Au rez-de-chaussée se trouve le restaurant rapide, le Dragon d'Or, où viennent manger ou commander des repas les différents habitants de l'immeuble. Il s'agit donc du point de cristallisation des solitudes induites par la société de consommation. En 48 mini-scènes, vous voyez qu'il y a une sorte de dramaturgie du shortcut, le spectateur va suivre plusieurs intrigues qui se déroulent aux différents étages de l'immeuble. On y rencontre un homme trompé et quitté par sa femme, une jeune femme qui apprend à son compagnon qu'elle est enceinte, le grand-père de cette jeune femme, un vieil homme hanté par sa mort prochaine et la déchéance de la vieillesse, qui reste seul et inconsolable, deux hôtesses de l'air, une poupée blonde, une poupée brune, rentrée d'un long vol outre-Atlantique et qui incarne le vertige de la perte et du vol d'identité. Elles sont des doubles, elles se dédoublent et elles veulent être quelqu'un d'autre. Ces mini-scènes sont entrecoupées par le fil rouge de la pièce, la vie dans les cuisines, les coulisses du Dragon d'Or. La scène que vous avez là se situe dans les coulisses. Là, pendant qu'ils font cuire les plats pour les clients et énumèrent les ingrédients, ça fait partie du rythme de la pièce. On a le menu, les détails du menu qui sont énumérés après l'apparition de chaque personnage. Quatre cuisiniers, chinois on va dire, arrachent une dent cariée à un jeune chinois. Là, vous voyez la scène. L'hémorragie lui coûtera la vie Et cette dent est le trait d'union entre les destins de l'immeuble, le révélateur de la barbarie humaine, mais aussi de la quête d'identité qui relie les différents personnages de la pièce. La dent va voler, elle va suspendre son vol, en quelque sorte, entre les scènes, pour enfin atterrir dans une assiette. C'est l'assiette de l'une des hôtesses de l'air. L'hôtesse de l'air va mettre la dent dans sa poche, l'emmener chez elle, et une fois qu'elle sera chez elle, elle va la mettre dans sa bouche. Dans une scène d'anthologie, les cuisiniers regardent par le trou laissé par la dent du jeune chinois. Et dans ce trou, ils voient sa famille, en Chine, qui attend de ses nouvelles, et avec ce dialogue se déroule peu à peu le fil de l'histoire de ce jeune chinois qui n'était pour l'instant qu'un supplicié, on va dire. De son passé, de son voyage et de l'intrigue principale, à savoir que le jeune chinois est venu en Europe pour retrouver sa sœur disparue, en passant par une véritable chaîne d'exploitation, les passeurs de clandestins, l'oncle de la famille elle-même. Ce fil se lie à un autre fil, celui de l'histoire de la cigale et de la fourmi, qui vient interrompre les scènes hyper-réalistes de la banalité du quotidien. Alors hyper-réaliste aussi parce qu'à de nombreuses reprises, on va avoir des inventaires, des énumérations d'objets qui viennent encombrer notre quotidien et qui en fait nous disent plus que nos dialogues. La cigale vient crier famine chez la fourmi, vous connaissez l'histoire. Celle-ci la fait danser d'abord, mais ensuite elle l'exploite en la faisant travailler pour elle comme prostituée. La cigale devient le point de ralliement et le souffre-douleur de tous les hommes de l'immeuble, esselés, frustrés, humiliés, vous les avez vus tout à l'heure. Elle est la sœur disparue du petit chinois, c'est ce qu'on va découvrir à la fin, qui va elle aussi mourir la même nuit. Quand je dis la même nuit, c'est une, on va dire, la temporalité chez Schemöpfenny qui est un peu problématique, puisqu'on a plusieurs temporalités qui vont être menées de front. Une temporalité, on va dire, rêvée, une temporalité réelle. Le corps de la cigale et la dent du chinois disent à la fois le lien et l'impossibilité de ce lien. On va dire l'identification et l'identification impossible. Car ces corps, devenus objets, signalise le processus de réification inhérent à la société de consommation et à son besoin de possession. Le lien se fait par la domination, le sacrifice et l'exploitation. C'est en fait cette esthétique de la violence qui se retrouve aussi ici. Le tableau que propose Schemöpfenny oscille entre hyperréalisme et onirisme. Quand on décrit d'habitude les pièces de Schemöpfenny, on dit qu'elles sont poétiques. Alors c'est une poésie, on va dire, efficace et cruelle. En effet, l'ensemble de la structure par parallélisme, transformation, allusion, déplacement, renvoie aux descriptions du travail du songe que pouvait faire Freud en 1900. L'écriture est saturée de réalisme magique, on a des gros plans, des inventaires, des trous béants qui mènent vers un ailleurs, etc., etc. Mais la magie y sert de cheval de Troie, pour faire entrer le destin de chaque personnage dans le cœur du spectateur. Donc l'émotion dont on a entendu parler tout à l'heure, c'est en effet cette émotion viscérale qu'on va faire entrer par ce petit déplacement, cette petite transgression que l'on a dans son écriture. Ce trouble, en fin de compte, qui va immiscer dans l'écriture, mais aussi dans la mise en scène. Le paradoxe tient à ce que le songe et la magie servent à dire l'indicible, l'horreur du quotidien. Les trois fils conducteurs de la pièce, l'arrachage de la dent dans les cuisines du Dragon d'Or, les solitudes entre les étages, et l'exploitation de la cigale par la fourmi et tous les autres hommes de l'immeuble, vont s'entremêler pour mener à un double sacrifice, celui du frère et celui de la sœur. La sœur est battue et violée à mort dans la tanière dans la tanière de la fourmi. Ici, vous voyez la fourmi à l'arrière-plan en tablier de vendeur de primeur, je crois, si je me souviens bien. Et vous voyez l'homme à la chemise rayée qui a été trompé par sa femme, qui est en train d'arracher une aile, comme il est dit, à la cigale. Donc c'est le sacrifice qu'on voit ici sur scène. Les victimes sont les exclus de la société de consommation, les étrangers dont la réification, l'asservissement sert d'exutoire à l'ensemble des habitants. La parabole est transparente, mais elle est efficace. Et on va dire qu'ici, il utilise toute la force de la théâtralité, on va dire du sacrifice rituel que l'on peut voir dans le théâtre grec, mais ici, comme on l'a vu tout à l'heure, il ne s'agit pas de guérison, on ne propose pas de guérison, la guérison serait ici scandaleuse. On veut justement garder cette plaie béante et la garder béante pour que quelqu'un d'autre se sente visé, c'est-à-dire le spectateur. À la fin, l'hôtesse de l'air met la dent une dernière fois dans sa bouche, signe de l'identification possible avec l'autre. Et elle la recrache dans le fleuve. La dent disparaît, sans bruit, ne laisse plus de traces de cet accident nocturne, de cette farce cruelle. La boucle est bouclée, la trace des sacrifices a été effacée, mais il reste comme un désagréable goût de sang dans la bouche du spectateur. La lecture de cette charge sociale et politique est complexifiée par un dispositif scénique original, modelé par le jeu avec l'indifférence postmoderne. C'est-à-dire, le point de départ de l'écriture est une conversation de l'auteur avec un avocat engagé dans la défense des immigrés illégaux. Mais Shimon Fenich a vite renoncé à écrire un drame naturaliste ou documentaire. Pour rendre cette fable efficace, il a fait le pari de la théâtralité et a ainsi mis en place un dispositif complexe. La pièce n'est jouée que par 5 acteurs. Chaque acteur, alors je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler, là vous avez la mort du petit chinois, voilà, chaque acteur, là vous avez le jeune homme, est caractérisé en fonction de son sexe et de son âge, donc un jeune homme. Chaque acteur jouera alors 3 à 4 personnages différents. Ici, vous voyez que le jeune homme va jouer le grand-père, vous voyez le dédoublement que ça peut proposer. Il va jouer un asiatique, il va jouer la serveuse et la cigale, ce qui signifie que les limites des genres est également brouillée. Les limites, donc, sont brouillées. Cet enchevêtrement complexifie la question des rapports évoqués dans la pièce, donc toute cette question de l'identité, du rapport entre victime et bourreau, et brise l'illusion pour créer une sorte de mise en abîme constante de ce qu'est le jeu au théâtre. Ainsi, non seulement le bourreau est aussi la victime, l'homme une femme et le vieux un jeune. Mais les didascalies s'immiscent dans les répliques pour servir de règles à un jeu qui ressemble à des matchs d'improvisation. C'est-à-dire qu'au début de chaque scène, on va nous raconter qui est la personne et ce qu'elle va faire. Alors ça ressemble aussi au dispositif brechtien, mais j'ai envie de dire que ça va un peu plus loin quand même. Enfin, pas que je veuille remettre en question Brecht. Ici, vous avez les autres personnages. Voilà, ils sont 5. Et chaque personne représente plusieurs voix. De façon évidente, le trouble identitaire est renforcé par ce dispositif. La transformation rêvée des personnages, c'est l'une des thématiques centrales, est réalisée à chaque instant. À un moment, l'homme va pouvoir dire « j'aimerais être une femme », le grand-père « j'aimerais être jeune », et évidemment, là, on va dire le théâtre réalise le vœu au moment où il est exprimé. Le théâtre décloisonne, rend transparent. Au fil de la pièce, chacun se rêve autre. L'hôtesse de l'air aimerait échapper à son rôle de poupée Barbie et être cet autre dont elle a trouvé la dent. Le vieil homme aimerait être jeune, l'homme trompé aimerait être aimé. Seuls les 5 Chinois dans la cuisine du restaurant, qui sont aussi les autres personnages, mais enfin les 5 Chinois, ne se projettent pas, ne se racontent pas. Ils sont dans l'action pure qui consiste d'abord à cuisiner, à arracher une dent, puis à se défaire d'un cadavre encombrant. C'est tout ce qu'ils font. En ce sens, au début de la pièce, les habitants occidentaux sont réduits au rôle de spectateurs de leur vie et du monde. Peu à peu, alors que la réalité de la fable se fait jour, les spectateurs deviennent acteurs. De même que Shemup Fenich revient à la base du théâtre et pose l'incarnation du personnage par le comédien comme système narratif, il déshabille l'action dramatique pour la résumer à son expression la plus pure, la violence, dans laquelle s'exprime le pouvoir sur le corps de l'autre. L'action devenue violence est d'ailleurs l'élément qui va peu à peu déterminer les liens entre les habitants masculins de l'immeuble. Dans la violence faite à l'autre, un corps féminin, ils vont tous révéler leur vrai visage.
Je sens que le temps presse parce que je vous vois regarder votre montre, donc je vais résumer ici les, on va dire, le brouillage qu'ils mettent en scène. Il s'agit de plusieurs brouillages, un brouillage extrêmement important qui consiste à mettre le corps au milieu de la scène, ce que vous avez vu dans les images que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire que l'esthétique de la salissure, du démembrement, de l'abject est au centre vraiment de ce que Shemeu Pfennig propose dans sa pièce, de telle sorte qu'on peut vraiment voir des ponts avec ce qu'on appelle les performance studies ou les performances que l'on peut retrouver par exemple dans les, on va dire, la prédominance du corps. Par exemple dans la mise en scène de l'agneau sacrifié par Hermann Nitsch dans les années 60, ou même les transformations sous le regard de l'appareil photographique de Cindy Sherman, qui prend des identités différentes, se grime à chaque projet, ou les opérations esthétiques qui sont filmées en direct, comme on l'a pu voir pour Orlan. Le corps est donc au centre, et le corps sert de correctif, on va dire de correctif au texte lui-même, donc à l'abstraction du texte. Et c'est le pont que j'aimerais faire vers Hamlet. Hamlet est mort, donc dans Hamlet est mort, le dispositif des personnages est plus simple, mais celui de l'adresse et de ses hiérarchies tout aussi complexe. C'est-à-dire la question de savoir à qui s'adresse le personnage fait partie de la didascalie d'ouverture de la pièce. En effet, selon la mise en page, les paroles des personnages sont des apartés, des réflexions, des commentaires ou des répliques adressées à une autre personne. C'est-à-dire qu'on a une sorte de vaste stream of consciousness qui vient sur scène et qui explose complètement les règles du dialogue dramatique. La question de la communication et de la valeur attribuée aux mots entre ainsi dans le cœur du dispositif. Palmet Sofa indique d'ailleurs que les bribes de phrases qu'il jette sur le papier posent moins la question de la communicabilité que celle de l'illusion identitaire fondamentale. C'est-à-dire que, on va dire que chaque phrase continue et coule dans la suivante. D'ailleurs, il n'y a pas de point. Hamlet est mort, raconte, c'est une structure analytique, les retrouvailles de 6 personnes, le père et la mère. Voilà. Le père et la mère, leurs enfants Danny et Manny, et les amis de ces enfants lors de l'enterrement de leur ami d'enfance, Hannes. Vous voyez, aucun Hamlet à l'horizon, si ce n'est que Hannes est peut-être Hamlet, on n'en sait rien. D'accord. Eh bien, rapidement, je vais quand même vous raconter... je vais peut-être pas vous raconter l'histoire, du coup, parce que si je dois terminer. Pour résumer, c'est justement cette faute des pères qui est au centre de cette pièce, puisqu'on va avoir 2 sacrifices qui vont être menés parallèlement. On va découvrir, c'est une structure analytique, donc on va découvrir au fil de 25 scènes ce qui en fait s'est passé, pourquoi on est en train d'enterrer Hannes, et au moment où on nous raconte enfin ce qui s'est passé, c'est-à-dire que son père, que Hannes a été découvert par son père en train de fouiller sa chambre pour trouver de l'argent, pour pouvoir s'acheter de la drogue, il est tué par son père et ensuite son père se suicide. À ce moment-là se passe exactement la même chose dans le présent de la pièce, c'est-à-dire que le père de Manny, découvre son fils nu dans son lit, prêt à commettre un acte incestueux avec sa sœur, le tue et se tue ensuite. C'est-à-dire qu'on arrive à un cercle vicieux, à un parallélisme entre les 2 temporalités, entre le passé et le présent. Ce qu'on essaye de nous dire, je pense, c'est que nous sommes entrés dans une ère où la répétition est le maître mot. Mais la pièce ne se termine pas là-dessus. La pièce se termine sur le dialogue des 2 survivants, Olly et Bean, les amis d'enfance, les spectateurs de la pièce. Et c'est en fait là-dessus que j'aimerais terminer, c'est-à-dire qu'en fin de compte, Palmet Sofa termine toutes ses pièces par les spectateurs de la pièce, les rend responsables et montre que l'espoir qu'on pourrait voir dans la naissance à venir de l'enfant de Bean ou dans l'histoire de la mort de Dieu qui est racontée à la fin par Olly, et qui est le fil rouge
du personnage qui vient juste d'être sacrifié sur scène, c'est-à-dire le fils de la famille, eh bien, cette absence, justement, qu'on va essayer de combler là avec l'enfant à venir, cette absence, en fin de compte, est illusoire tant que le spectateur n'a pas pris le pouvoir. Donc, l'actionnisme se situe là, dans l'envie qu'ont Schemepfennig aussi et Palmetsova de rendre le pouvoir au spectateur, de le réveiller, de le réveiller justement par l'abjection, par l'horreur, la violence qu'il leur jette au visage et qui est censé les réveiller. Alors la question que je me pose, c'est la question du public et on va dire du comique qui est apparent dans les mises en scène et qui est moins apparent à la lecture. Et c'est la grande c'est le grand lien en fait entre ces deux écritures, c'est que les écritures sont extrêmement cérébrales, très intellectuelles, pétries de références culturelles et extrêmement triviales avec un langage ordurier dont on a pu entendre parler tout à l'heure. Mais le poids, la pesanteur de ces textes est complètement renversée par la mise en scène qui est extrêmement jouissive, rigolote. Et dans ce sens, je ne sais pas si la visée des auteurs est complètement, trouve sa réalisation sur scène. En tout cas, c'est un spectacle qui vaut le coup et qui, je crois, est représentatif vraiment de ce qui se passe en Allemagne et en Autriche en ce moment. Et la grande mère qui est derrière ces deux auteurs, c'est, à mon sens, Elfriede Jelinek, qui a aussi une écriture qui s'apparente à ce qu'on peut voir ici. Voilà, merci et désolée d'avoir... Merci.